de la philatélie aux académies. La chronique d'Alain Laugier sur Canal Académie.
Docteur Alain Laugier est content de retrouver ses... C'est pas des auditeurs, c'est des internauteurs, si on peut se permettre ce néologisme, qui vont sur Internet voir aujourd'hui, non pas une émission thématique, mais une présentation des cancans, des nouvelles du mois de mai. Première nouvelle, le 8 mai, le président de la République est à La Rochelle pour donner le coup d'envoi des cérémonies du 4e centenaire du départ des colons français vers le Canada. Ce sera l'émission d'un dossier sur le Canada qui sera fait dans quelques semaines. Ce timbre du Mont-Saint-Michel date des années 1929, quand, pour la première fois, les postes ont présenté trois timbres de sites historiques pour développer le tourisme en France. Le pont du Gard, le Mont-Saint-Michel et le port de La Rochelle. Ce sont des timbres de la période dite semi-moderne et qui coûtent assez cher et qu'il faut avoir dans un fonds de collection sur la France. Première actualité, donc, La Rochelle qui annonce le Canada. Deuxième actualité, l'exposition remarquable au musée de la Marine consacrée à La Pérouse. Voilà un timbre anglais sur les voyages de Cook. Cook a fait vers 1780, trois fois, le tour du Pacifique et il est mort dans ce qui est actuellement Hawaï, tué par des indigènes à la suite d'un malentendu. Le roi Louis XVI, une fois que la paix avait été signée avec les Anglais à la fin de la guerre de Sept Ans, décide d'explorer également le Pacifique et envoie La Pérouse avec deux bateaux pour faire un grand tour. Il est parti trois ans et il a eu l'intelligence quand il s'arrêtait le long des côtes de la Californie, en Alaska, à Canton, en Chine, de déposer tous ses documents et ses récits de voyage et les plantes qu'il avait pu rassembler. Ce qui fait que ces témoignages n'ont pas été perdus et ont fait l'objet d'une publication. Mais il est mort à l'île de Vanikoto, où les deux bateaux, drossés le long de l'atoll par la tempête, ont coulé. Il y a eu des survivants qui ont vécu à peu près une vingtaine d'années, mais n'ont pas pu s'échapper. 40 ans après, on retrouve leurs traces, d'entrecasteaux ayant été mandatés pour faire le voyage de découverte. Et c'est au cours des 10 dernières années qu'on a fait des études d'archéologie sous-marine, scientifiques, parfaitement calibrées. Et cette merveilleuse exposition du musée de la Marine, qu'il faut suivre avec les écouteurs à l'oreille, raconte en fait quelle était la vie à bord à partir de tous les artefacts, tous les objets qu'on a récupéré dans la vie quotidienne, dans leurs moyens de navigation. C'est absolument remarquable. Il y avait un timbre de La Pérouse, qui est sorti en 1968. Vous vous souvenez, vous n'y étiez pas, qu'en montant à l'échafaud, le roi Louis XVI a posé la dernière question: « A-t-on des nouvelles de monsieur de La Pérouse ?» On n'en avait pas. Troisième actualité, haute exposition au musée de la vie romantique, qui se tient dans la Nouvelle Athènes, au nord de la gare Saint-Lazare, vers le 9e arrondissement. Ce musée de la vie romantique consacre un dossier présentement au début du romantisme allemand autour de Goethe. Alors Goethe a été timbrifié, il a été timbrifié en France en même temps que Mozart. Le portrait de Goethe que l'on voit au musée avait déjà été fait dans un timbre allemand. Vous avez là la carte postale et le timbre à l'occasion du 150e de sa mort. Le timbre français n'est pas très flatteur. Le timbre allemand qui reprend le tableau de Stieler est absolument remarquable et mérite d'être vu attentivement. D'autres ont été évidemment publiés en Allemagne de l'Est, qui doublait un petit peu les émissions de l'Allemagne fédérale, et dans la zone occupée de Berlin. Autre actualité, la sortie cette année, ce mois-ci, du timbre pour le 40e anniversaire de la première grève de cœur faite par notre excellent collègue Christian Cabrol il y a 40 ans à l'hôpital de la Pitié. Le grand innovateur était Shumway, que j'ai connu à l'université Stanford. Shumway avait mis au point toutes les techniques de greffe du cœur sur le gros animal. Mais il n'a pas osé franchir le pas vers la greffe humaine et c'est Barnard qui, en 1967, à l'hôpital Rotechur du Cap, de Cape Town, a fait la première greffe. C'est évidemment gonflé, c'est un peu une transgression par rapport au tabou. On acceptait de greffer des reins, de greffer des morceaux de foie, mais le cœur, un organe qui bat, c'est un peu comme le cerveau, on n'y touche pas. Non que la greffe de cerveau soit possible actuellement, c'est un peu dommage, diront certains, mais la greffe de cœur a quand même rendu d'immenses services à la cardiologie. Quelques semaines après, dans ce petit monde où tout le monde se connaissait, ils étaient amis intimes de Shumway, de Barnard, c'est des gens qui ont été dans les grands services de chirurgie cardiaque quand ils avaient 30 ans, c'était des jeunes assistants prometteurs et qui sont lancés là-dedans. Christian Cabrol était marié avec Annick Piriou, avec qui j'ai préparé l'externat, qui était son anesthésiste. Et on peut dire que une grande partie de ses succès sont liés à la qualité de l'anesthésie de sa femme. Tous deux vivaient 25 heures par jour à l'hôpital, étant vraiment en plein temps en chirurgie cardiaque. Ça s'est passé à la Pitié, dans le service du professeur Mercadier, qui était à ce moment-là en mission pour quelques jours en Algérie. Christian Cabrol, qui était un agrégé d'anatomie, tout en étant chirurgien bien sûr, connaissait très bien l'anatomie du poumon et du cœur, aidé en cela par Guy Rodon, qui a été son adjoint, et tous les deux, par nécessité, ont greffé un cœur parce qu'ils avaient eu la chance d'avoir un cœur disponible chez un malade comateux accidenté de la route et un malade à la dernière extrémité chez qui tout était permis puisqu'il mourait dans les heures qui venaient si on ne greffait pas. Ils ont fait la greffe et après en avoir terminé, il fallait rendre compte à l'administration avec les conséquences médiatiques que ça avait. Et à ce moment-là, l'adjoint de Cabrol, Guy Rodon, avoue qu'il n'a pas pu joindre le professeur chef de service à Alger et qu'il n'avait pas informé, il n'avait pas l'autorisation formelle de tenter cette première chirurgicale. Alors il y a eu une remontée de bretelles dans le bureau du directeur général deux jours après au retour du professeur Mercadier, mais tout s'est arrangé puisque le malade a survécu quelques jours. Et c'était la grande première européenne, la Poste française, le commémore, dans un timbre qu'on le reprendra à l'occasion d'un dossier sur la transplantation d'organes, qui est un sujet chaud, toujours d'actualité, et qui a fait l'objet de nombreuses illustrations philatéliques. Dernière présentation philatélique, ça n'est pas la publication d'un timbre, encore qu'il y en ait eu beaucoup, sur l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Voici par exemple un des nombreux timbres que vous verrez dans une autre occasion qui montre la double hélice et à côté d'eux, les deux personnes qu'il y a une cinquantaine d'années, Watson l'américain et Crick l'anglais, ont publié dans Nature il y a un demi-siècle et ont eu le prix Nobel en conséquence pour avoir réussi à décrypter la structure des acides nucléiques. Mais l'intéressant n'est pas une innovation philatélique, c'est la publication dans une des deux grandes revues mondiales généralistes de sciences, Nature, la revue anglaise, par opposition à Science, la revue américaine, cette publication, Dr. Watson's Base Pair, c'est-à-dire la publication du génome complet de James Watson. À partir de ces cellules, on a extrait son ADN et on a publié la séquence des 3 milliards de paires de bases, avec quelques endroits où il y a des gènes qui peuvent être à l'origine de certaines mutations détrimentales, dirait-on en mauvais français et en bon anglais, c'est-à-dire des gènes à l'origine possible de certaines maladies, de certaines tendances à attraper ces maladies-là. Alors évidemment, ça pose problème. A-t-on le droit de publier le génome d'un individu sans attenter à son intimité la plus proche. A-t-on le droit de publier ce génome pour que sa famille, descendant ou adjacent, puisse être informée des anomalies génétiques qui se traînent dans cette famille? Alors, tout était très bien décrit après des discussions entre des comités d'éthique et l'avis de Watson lui-même, puisque son poids pesait vu sa notoriété scientifique et vu le fait qu'il avait donné son accord pour publier son propre génome. En réalité, c'est le second génome. Il y en a un autre qui est publié, peut-être d'une manière moins précise, quelques mois avant, par un autre biologiste américain, assez exceptionnel, qui a été aussi un peu un homme d'affaires, qui a fait beaucoup pour séquencer d'une manière rapide. L'intérêt de cet article se trouve également dans l'aspect économique des choses. Les trois séquences sont les suivantes. Premièrement, en 2003, on a publié, faite par des méthodes tout compte fait artisanales, la première carte du génome. C'était le Human Genome Project. 13 ans, 2800 scientifiques au moins, 2,7 milliards de dollars dans 16 institutions scientifiques étalées dans 6 pays. Seconde série, celle de Venter. Venter, biologiste, créateur d'une industrie d'appareils permettant de séquencer rapidement. Venter, pour faire son propre génome, a mis 4 ans avec 31 scientifiques pour 100 millions de dollars, 5 institutions dans 3 pays. Watson, tout seul, avec une équipe de 27 personnes, a mis 4 mois et demi avec les nouveaux automates de séquençage pour la somme d'1,5 million de dollars seulement dans un seul pays, les États-Unis, dans 2 instituts. Donc si on extrapole, on peut dire que dans 10 ans, on atteindra un des projets qui est d'avoir le génome pour 1 millier de dollars, pas plus, fait rapidement en quelques heures. Et ça, ça nous pend au bout du nez, ça va être vu, ça va être fait. Donc il faut être optimiste. Ce qu'on fera avec la connaissance complète du génome de chaque malade, c'est tout le problème de la médecine prédictive. Dans quelle mesure le médecin doit-il connaître les anomalies génétiques? Dans quelle mesure peut-il agir? Dans quelle mesure peut-on en faire part aux malades? Ce fera l'objet d'un très beau débat le moment venu.